Le journal Yves Decamp, bonjour Yves.
Bonjour. C'est l'image du jour, une image pour l'histoire. Donald Trump qui franchit la frontière entre les deux Corées, accueilli au nord par Kim Jong-un. La rencontre officiellement improvisée a bien eu lieu. Belle opération pour le président américain. Quel président pour la Commission européenne en remplacement de Jean-Claude Juncker? Les 28 chefs d'État et de gouvernement qui n'ont pas réussi à s'entendre sur un nom se revoient tout à l'heure à Bruxelles. L'Allemagne semble prête à lâcher son candidat Manfred Weber. Des militants écologistes assis par terre, aspergés de lacrymo par les forces de l'ordre. L'image a fait le buzz sur Twitter. Le réalisateur Cyril Dion dénonce une violence policière disproportionnée. Le ministre François de Rugy lui répond que l'heure n'est plus aux manifestations mais à l'action. Dans ce journal également, quel bilan de la loi alimentation votée en octobre? Elle devait permettre une plus juste rémunération des agriculteurs, mais rien de probant. Pour l'instant, c'est le droit de suite de ce dimanche 13h. On respire mieux à l'ouest et dans le nord, mais 32 départements sont toujours en vigilance orange canicule dans l'est et le sud, on vient de l'entendre. Le sud où des vignes, notamment, ont beaucoup souffert, comme souffrent aussi les concurrents de l'Ironman à Nice, l'un des plus célèbres triathlons du monde, dont les parcours ont été réduits ce matin compte tenu des circonstances.
France Inter.
Improvisé ou pas, on peut avoir des doutes sur ce point, mais peu importe, la rencontre de ce matin sur la frontière entre les deux Corées était bel et bien historique. Aucun président américain n'avait foulé le sol de la Corée du Nord et Donald Trump l'a fait. Après avoir attendu son vis-à-vis Kim Jong-un sur la ligne frontière, il est passé de l'autre côté avant que les deux hommes ne reviennent ensuite du côté sud. Donald Trump l'avait annoncé au sommet du G20, il invitait le maître de Pyongyang à venir lui serrer la main dans la zone frontière démilitarisée et la rencontre a bien eu lieu vers 9h moins le quart ce matin, heure française. Frédéric Ojardias à Séoul.
La simple poignée de main suggérée hier par Donald Trump s'est transformée en un véritable sommet. Près d'une heure de discussion entre le président américain, le dirigeant nord-coréen et le président sud-coréen. Donald Trump a réussi son coup, il s'est fait prendre en photo avec Kim Jong-un du côté nord de la frontière, il a invité le leader suprême nord-coréen à la Maison-Blanche. Tout n'était que sourires et déclarations de bonnes intentions. À l'issue du sommet, le président américain a assuré que les négociateurs des deux camps allaient se rencontrer d'ici 2 ou 3 semaines pour reprendre leur pourparlers nucléaire. C'est un pas dans la bonne direction. Cela signifie que Pyongyang est prête à reprendre ses discussions interrompues depuis février. Mintaro Oba, un ancien diplomate américain, parle de diplomatie du défibrillateur. Donald Trump maintient en vie le processus de dialogue à travers des coups d'éclat. Le problème, c'est que ni lui ni Kim Jong-un ne semblent prêts à faire les compromis nécessaires pour résoudre fondamentalement la crise nucléaire. Séoul, Frédéric Ojardias, RFI pour France Inter.
Voilà, le geste est spectaculaire, ce passage de la frontière dans les deux sens par les deux dirigeants d'un point de vue comme c'est parfait. Mais au-delà des belles images, à quoi pourra servir cette séquence impromptue? En tout cas, en apparence, les deux pays ont convenu de reprendre des discussions. Mais tout ça répond à un agenda politique précis du président américain, comme l'explique Marie-Cécile Nave, spécialiste des États-Unis à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Elle est au téléphone de Bertrand Galichet.
Comme toujours, même quand il est à l'étranger, il s'adresse à son électorat, surtout à quelques mois de l'élection. Et ce, alors qu'aux États-Unis, l'attention médiatique porte ces derniers jours sur les débats entre les 20 prétendants démocrates. Ça lui permet de remettre l'attention médiatique sur lui. Et on peut ajouter qu'il s'est exprimé ces derniers jours pour dire qu'il avait été frustré dans la manière dont les médias américains avaient insisté sur l'échec des négociations entre les États-Unis et la Corée du Nord il y a quelques mois de cela.
Et en même temps, on sait que Trump, politiquement, peut être extrêmement versatile et donc qu'il peut avoir une attitude très différente dans les heures ou les jours qui viennent.
Oui, absolument. D'autant que son conseiller à la sécurité intérieure, John Bolton, en mai dernier, quand il y a eu des essais de missiles nord-coréens, parlait de violation des résolutions du Conseil de sécurité. Et c'est pour ça peut-être aussi que Trump a insisté sur son souhait de reprendre les négociations et qu'il en a reparlé à Kim dans les dernières heures.
Et pendant ce temps, à Bruxelles, qui pour succéder à Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne, les 28 chefs d'État et de gouvernement de l'Union se réunissent à nouveau tout à l'heure pour essayer de s'entendre sur un nom. Aux dernières nouvelles, Angélique Bouin, vous êtes la correspondante de France Inter à Bruxelles. Il semblerait que l'Allemagne soit prête à lâcher son candidat Manfred Weber, qui avait déjà été recalé le 20 juin dernier.
Ah oui, c'était le candidat du PPE, la droite européenne, arrivé en tête des élections, soutenu par Angela Merkel, mais fortement rejeté pour son manque de carrure par Emmanuel Macron et plusieurs autres dirigeants européens. Il aurait donc jeté l'éponge, selon plusieurs sources, en échange de la présidence du Parlement. Et c'est le Néerlandais, chef de la famille social-démocrate, arrivé en deuxième position des élections, qui tiendrait la corde pour ce poste clé. Rappelons qu'il lui faut néanmoins obtenir une double majorité, 21 des 28 voix au Conseil, cette instance qui réunit les chefs d'État et de gouvernement des 28 pays membres, mais aussi la majorité des voix des eurodéputés. Manfred Weber pourrait annoncer son retrait aujourd'hui, mais obtiendra-t-il l'assurance de diriger le Parlement? C'est le sens des tractations en cours, et il faut bien le rappeler, toujours le rappeler, hein, rien n'est encore joué. L'équation est compliquée car il y a 5 postes en jeu à la tête des institutions, la présidence de la Commission, mais aussi celle du Parlement, du Conseil, le poste de chef de la diplomatie européenne et la présidence de la Banque centrale. Et cette répartition doit tenir compte des équilibres politiques sortis de l'élection du mois de mai, mais aussi des équilibres géographiques entre les pays. Et enfin, la parité homme-femme.
Angélique Boin à Bruxelles. Pas de décoration pour Cyril Dion. Le réalisateur et militant écologiste promu dans l'Ordre du Mérite annonce qu'il refuse la décoration proposée par le gouvernement. Et ce, pour dénoncer les violences commises par les forces de l'ordre vendredi contre des manifestants pacifiques, en l'occurrence des militants d'Extinction Rébellion, organisation qui prône la désobéissance civile pour mieux lutter contre le réchauffement climatique. Ils étaient quelques dizaines vendredi à bloquer un pont de Paris assis par terre quand les policiers les ont aspergés de lacrymo. Comment accepter d'être décoré par un gouvernement qui répond de façon si disproportionnée, explique le réalisateur à Julie Pietri.
Quand j'ai vu vendredi que des militants qui étaient assis par terre se sont fait gazer à bout portant, c'était le coup de trop. Moi, je peux pas être décoré par un gouvernement qui fait usage de la force comme ça. C'est que c'est pas possible que des personnes qui viennent alerter sur l'urgence climatique, alors qu'on est le jour où on a battu le record de température en France, puissent être traitées de cette façon-là. Les militants d'Extinction Rebellion sont allés faire la même chose à Londres pendant 5 jours. Jamais on a eu ce type de débordement de la police anglaise. Je veux dire, c'est insupportable. On va vers des moments difficiles, vraiment. Les scientifiques se sont rendus compte que le permafrost dégelait 70 ans plus tôt que ce qu'on imaginait en Arctique. Il y a un rapport de l'ONU qui a même évoqué le fait qu'on était incapable de contrôler l'augmentation de la température en Arctique à partir de maintenant. Donc la situation va se durcir hein, de toute façon. On a besoin de faire face à ce danger ensemble. Ce qui s'est passé vendredi sur le pont de Sully va complètement à l'inverse de ça. Pour moi, c'est pas possible.
Les images de cet épisode ont été largement partagées sur Twitter ces dernières 24 heures. Pour le ministre François de Rugy, si la manifestation en question n'était pas violente, elle était bloquante puisqu'elle empêchait le passage sur un pont. L'heure n'est plus aux manifestations qui ne proposent rien, dit-il, mais à l'action.
Évidemment, quand j'ai vu ça, je me suis posé des questions et j'ai regardé la vidéo dans son entier. Alors évidemment, ça dure 11 minutes. Au début, les CRS appellent les manifestants à débloquer. C'était des manifestants qui bloquaient le passage sur un pont.
Ils sont pacifiques, on le rappelle.
Oui, mais enfin, vous savez, les choses pacifiques qui conduisent à bloquer une ville... ou des ponts sur une ville, et ensuite des gens, quand vous leur demandez pacifiquement de dégager la voie, et que évidemment ils refusent, qu'ensuite ils essayent de les enlever. Vous vous rendez compte qu'on est obligé de mobiliser des CRS pour prendre les personnes une par une et essayer de les enlever.
Par la violence
donc
et
ça
la
se finit,
de
ça se finit avec l'utilisation, en effet, de gaz qui ont pour but de que les gens s'en aillent. Enfin, moi, j'estime qu'on n'est plus autant des manifestations. Bien sûr, en France, je crois qu'il y a peu de pays où on manifeste autant, où on peut autant manifester qu'en France. Mais la réalité, c'est que nous devons être dans l'action. Ces manifestants-là, par exemple, vous pouvez écouter, regarder, ils ne proposent rien.
François de Rugy, ce matin sur BFM. Et pourquoi pas des congés canicules ? Proposition signée Yannick Jadot, le député européen d'Europe Écologie Les Verts, le dit au journal du dimanche. Nos politiques publiques ne sont pas à la hauteur. D'où ces propositions pour limiter la pollution et les risques de congés canicules, donc de mettre en place des congés canicules et des transports publics gratuits. Et puis à propos de canicules, 32 départements sont toujours en vigilance orange. On a entendu tout à l'heure le bulletin météo. L'air redevient respirable à l'ouest et au nord de la Loire, mais le sud et l'est restent au chaud, très chaud. C'est du jamais vu à cette époque de l'année, en tout cas pas à ce point-là, du jamais vu, notamment dans les vignes d'Émilien Fournel à Sussargues, dans l'Hérault.
Tout est sec, tout est grillé complètement, quoi. Les feuilles sont complètement grillées, sont marron, les raisins aussi. Tout a été... comme si le feu était passé par là, quoi. Du jamais vu, en fait. C'est vraiment parce qu'il a fait chaud très tôt, quoi. Voilà. Parce que la vigne, en règle générale, au mois de juillet, au mois d'août, elle est capable d'encaisser des températures de 40 degrés sans problème. Il va falloir maintenant apprendre à travailler différemment, peut-être faire plus attention encore à la météo. Il va falloir essayer de tout réinventer.
Voilà un vigneron de l'Hérault. Au micro d'Elena Loison.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decan.
Comment mieux rémunérer les agriculteurs, mieux payer leurs produits au juste prix? C'est l'enjeu de la loi alimentation, dite loi Egalim, adoptée en octobre par le Parlement. Loi qui limite les promotions et le seuil de revente à perte de façon à sortir de cette guerre des prix des grands distributeurs. Car au bout du compte, en demandant des tarifs toujours plus bas à l'industrie agroalimentaire, eh bien c'est aux paysans qu'ils font payer la note. 9 mois après, qu'est-ce qui a changé dans les exploitations? Pas grand-chose, c'est le droit de suite de ce journal.
Pour les agriculteurs, le verdict est sans appel.
Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de retours dans les cours de ferme.
Patrick Bénézy est éleveur dans le Cantal, secrétaire général adjoint de la FNSEA. Si les prix d'achat du lait ont un peu augmenté, pour le reste, dit-il, aucun changement.
Les ordonnances ont été publiées en avril. Et beaucoup de nos organisations de producteurs ne se sont pas encore saisies de cette nouvelle réglementation. Et puis entre ce qui a été affiché par les distributeurs, la main sur le cœur de rémunérer davantage les producteurs, c'est pas exactement ce qui se passe tout de même. On a peu d'initiatives qui couvrent des volumes suffisamment importants et qui permettent aux producteurs d'être rémunérés.
C'est pourtant l'objectif du système de prix en marche avant, inscrit dans la loi et qui prévoit de définir le prix d'une denrée en fonction de son coût de production. Mais là-dessus, les distributeurs renvoient la balle aux industries alimentaires. Jacques Cressel, directeur général de la Fédération du commerce et de la distribution.
Il n'y a pas de vraie volonté du côté des industriels de mettre en œuvre cette partie de la loi. Donc il faut absolument que ça change. Ça veut dire qu'il faut que désormais il y ait deux niveaux de négociation. D'abord entre le producteur et l'industriel avec des conditions transparentes, notamment de prix d'achat, et qu'ensuite la deuxième négociation entre l'industriel et le distributeur prenne en compte le prix qui a été effectivement payé au producteur agricole. C'est la clé de la réussite de la loi alimentation.
Les industriels dénoncent la guerre des prix que continue de mener la grande distribution, toujours à la baisse. Il faudra pourtant bien trouver rapidement un terrain d'entente, sinon ce sont encore plus d'agriculteurs qui vont disparaître, prévient la FNSEA.
Invité de ce droit de suite, Michel Raison, sénateur Les Républicains de la Haute-Saône, rapporteur d'une mission sénatoriale qui vient justement de pointer les limites de cette loi Egalim. Bonjour.
Oui, bonjour à vous toutes et à vous tous.
Alors les industriels et la grande distribution se renvoient la balle. Hein. Qu'est-ce qui coince dans cette loi Egalim?
Déjà, ils se renvoient la balle, mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas une loi qui va régler le problème des prix agricoles. Les prix, c'est un marché, il y a une loi d'offre et de demande, et c'est ça qui fait les prix. Ensuite, à la marge, il y a des négociations. Deuxième remarque, la grande distribution n'achète pas 100% des produits de l'agriculteur. Si on prend la masse de la ferme France, c'est 20%. Alors évidemment, les producteurs de lait, c'est beaucoup plus. Donc c'est pour ça que ça tourne beaucoup autour des producteurs de lait. Mais en effet, la grande distribution, il y a 4 à 5 centrales d'achat aujourd'hui. Carrefour est en difficulté, Casino est en difficulté, Auchan va guère mieux. Et ils se battent entre eux pour leur survie. Donc ils se battent comme des chiffonniers pour essayer de vendre au plus prix le plus bas. Donc dès qu'il y en a un qui baisse un peu, l'autre s'aligne, et forcément ils sont très durs.
Mais la loi était censée empêcher ça, justement.
Mais la loi a pu pas régler les problèmes ni de morale ni de marché. La loi, elle a fait que deux choses. Elle a encadré les promotions, ce qui est même un peu douteux dans certains cas, parce que parfois on en a aussi besoin, donc on a retiré de la souplesse dans les promotions, mais tout n'était pas en promotion à 100% toute l'année. Elle a augmenté le prix du seuil de revente à perte, c'est trop technique pour que les éditeurs, les auditrices et auditeurs puissent comprendre. Mais c'est pareil, c'est à la marge. Il fallait être crédule pour croire que ça allait révolutionner le prix payé aux producteurs. C'est une incidence très faible sur le prix du producteur, en final, quand on
et
a...
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ah non, mais sur ce sujet-là, ça fait 15 ans que je suis parlementaire, ça fait 15 ans qu'on fait des lois sur la grande distribution. Le problème est un problème moral, le problème est un problème de concurrence. Les paysans ont beaucoup de mal à se regrouper sur le plan juridique. Ils ont déjà été pénalisés pour des problèmes de concurrence. Et je ne comprends pas pourquoi on autorise uniquement 5 centrales d'achat qui font la loi dans le marché de tous ces achats de produits. Alors, il n'y a pas que la, je vous dis, mais il n'y a quand même pas que la grande distribution qui achète des produits. Et également, on exporte des produits, on n'est pas, ils sont pas tout seuls non plus. Et le revenu agricole n'est pas fait que par le prix du produit. Il est fait aussi par la politique agricole commune et il est fait aussi par la colonne charge. Et depuis qu'on parle de la loi Egalim, on n'a jamais parlé des promotions des paquets de nouilles et du seuil de revente à perte qui touche d'ailleurs plutôt les grandes marques que les PME. Mais on n'a jamais parlé des charges et dans la deuxième partie de la loi Egalim, on en a remis une couche de charges.
Bon, il faut y revenir sur cette loi alors.
Moi, j'ai pas été déçu par la loi parce que je n'y ai jamais cru. Mais sur la partie des distributeurs, on ne pourra pas par une loi. Il y a le problème de la concurrence. Il faudrait que les systèmes de concurrence changent. Donc, il y a des leviers européens à faire bouger sur ce sujet. Et puis, un problème de morale aussi parce que ils traitent leur côté. Ils sont gonflés tout à l'heure, interviewés, expliquaient que c'est de la faute des transformateurs. Non, ça, les gens les plus durs dans la chaîne, c'est pas les transformateurs, c'est le dernier acheteur qui est la grande distribution, c'est clair.
Michel Raison, merci beaucoup, sénateur Les Républicains de Haute-Saône.
Je vous en prie.
Merci beaucoup.
À vous et bonne journée.
Voici. Une bagarre qui finit mal dans les Yvelines à Saint-Germain-en-Laye, où deux bandes rivales se sont affrontées vers 1h du matin. Une soixantaine de personnes, bilan 6 blessés, dont 3 en urgence absolue. En sport, Thomas Voeckler, nommé sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme sur route, celui qui avait porté 2 fois pendant 10 jours le maillot jaune du Tour de France va remplacer Cyril Guimard sans délai, tout de suite. L'annonce a été faite ce matin en marge du championnat de France sur route. Et puis c'est l'un des triathlons les plus importants au monde, l'Ironman de Nice, les eaux claires de la Méditerranée, les routes vallonnées de l'arrière-pays niçois, la course à pied sur la promenade des Anglais. Le parcours a été réduit cette année compte tenu des fortes chaleurs. Maxime Bacquier, les meilleurs ne sont plus très loin d'en terminer maintenant, non ?
Oui, c'est ça. Ils sont attendus dans un peu moins de 10 minutes, mais vraiment tout le monde souffre de cette chaleur, cet épisode de canicule. Déjà en temps normal, il faut être un peu fou pour s'infliger de tels efforts. Mais là, avec cette chaleur, cet épisode de pollution aussi qui enveloppe les Alpes-Maritimes ce week-end, c'est un véritable enfer que vivent les 2900 participants qui sont encore tous en course actuellement, même si donc les meilleurs sont attendus aller dans un peu moins de 15 minutes sur la ligne d'arrivée ici sur la promenade des Anglais, qui n'a rien d'une promenade de santé sous ce cagnard, plus de 32 degrés, c'est ce qu'affiche le thermomètre, même si en ressenti c'est bien plus. Des coureurs partis à 6h30 ce matin, qui ont enchaîné 3,8 km de natation dans la Méditerranée, 150 km de vélo dans l'arrière-pays niçois et 30 km de course à pied, parcours raccourci, vous l'avez dit, à cause de cette chaleur. Et c'est un Français qui pourrait s'imposer pour la première fois ici depuis 2005, Kevin Rundstadler. Il est en tête alors que le grand favori, le Belge Fred Van Liert, 5 fois vainqueur ici, est à l'arrêt, victime de crampes. Quand on vous dit que c'est dur pour tout le monde, même pour les meilleurs.
Maxime Bacquier, restez bien à l'ombre. On a entendu la météo tout à l'heure. 32 départements sont toujours en vigilance orange canicule dans le sud, le centre et l'est. Une idée pour ceux qui cherchent la fraîcheur. Cet après-midi, le cinéma. Les salles sont en général climatisées. C'est cet après-midi que débute la fête du cinéma pour 4 jours. Toutes les séances à 4 euros.